se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, la botte de 500 grammes d'asperges blanches violettes est à seulement 3,69€.
À ce prix-là, je pense déjà à mon velouté d'asperges. Mes invités vont en voir de toutes les couleurs.
C'est ça le printemps.
Bon bah je vous laisse, j'ai des courses à faire.
Et ça, c'est le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 3,69€ la botte de 500 grammes d'asperges blanches violettes, soit 7,38€ le kilo. Origine France, catégorie 1, calibre 16-22. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC.
Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on commente tous ensemble le meilleur des RMC ces dernières 24 heures. Et on va commencer tout de suite avec Apolline Matin ce matin. La justice abandonne-t-elle les médecins agressés? Lundi dernier à Marseille, un médecin qui officie depuis 15 ans dans les quartiers nord a été violemment agressé par deux personnes qui souhaitaient être examinées sans avoir pris rendez-vous. Une agression de trop pour le docteur Saïd Ouichou qui a pris la décision de déménager son cabinet. Il témoignait ce matin chez Apolline.
D'abord, je ferme le cabinet pour changer de lieu, c'est un lieu qui présente beaucoup de problèmes. Suite à une énième agression verbale, mais violente quand même. Comme ça arrive souvent, c'est des patients qui arrivent et qui exigent d'être inscrits sur le carnet des rendez-vous. Donc, on leur explique que c'est complet, mais bon, ils insistent. Mais de toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'être vus tout de suite, immédiatement. Et dès qu'on dit que c'était pas possible, c'est tout de suite les insultes. Et les tentatives, en fait, ils voulaient me frapper carrément lundi dernier, oui.
Comment vous décririez la dégradation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 années et surtout pendant les dernières?
Au début, pendant plusieurs années, une bonne dizaine d'années, tout était très bien. Donc, j'exerçais mon métier dans de très bonnes conditions. Et ensuite, de plus en plus, la violence est installée. Et en fait, il y a un laisser-aller, il y a un abandon de ce quartier. Les gens commencent vraiment à faire la loi et surtout une impunité. C'est-à-dire qu'un médecin qui se fait agresser, moi j'ai porté plainte plusieurs fois, et à chaque fois, a été classé sans suite. C'est-à-dire, on ne considère pas l'agression d'un médecin.
Ouais. Ça me rend dingue et c'est tout un quartier qui n'a plus de médecin aujourd'hui parce qu'il y a deux personnes qui ont violemment agressé ce docteur. Et ça vous inspire quoi, Emmanuel Dantois?
Moi, je l'ai écouté ce matin, j'en tremblais. Quoi. Surtout qu'il va porter plainte à chaque fois, je vérifiais ce qu'il faut faire, à chaque fois il est classé sans suite. Et il racontait aussi que ses agresseurs venaient le narguer. Parce qu'il aurait été rien arrivé, une impunité totale. Et en fait, il va pas si loin que ça. Hein. Il va se regrouper avec d'autres médecins pour se protéger, mais il veut pas laisser sa patientèle. Vous vous rendez compte de l'engagement de ce docteur? Il va pas laisser sa patientèle. Il s'installe un petit peu plus loin, mais à plusieurs, histoire de pouvoir se protéger les uns les autres.
Quoi. Mais c'est grave.
Ben oui. Mais il se sent totalement abandonné par la justice. Hein. Totalement abandonné.
Daniel Riolo, vous êtes en colère quand vous entendez le témoignage de ce médecin?
Est-ce que c'est surprenant? Est-ce qu'on découvre l'insécurité dans notre pays? Est-ce qu'on découvre l'insécurité dans certains quartiers? En ce moment, la ville à la mode dont on parle beaucoup, c'est Nantes. Ça a été Marseille. Nantes, qui était une ville paisible, je crois que vous en avez parlé cette semaine dans l'émission. Pourtant, ça fait très longtemps que beaucoup de gens alertaient. Là, maintenant, sous le feu des projecteurs, on va même sur place faire des reportages. Oui, on le sait, sauf qu'on veut pas dire la vérité, dans quel quartier c'est. Il y a un ensauvagement terrible de certains quartiers où on est au-delà du Far West. Et après, on en arrive à ce que tu dis, Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a une justice qui est complètement défaillante, qui ne condamne pas, qui ne met pas les gens en prison, parce que la prison, c'est pas bien, parce qu'il n'y a pas assez de place. Et au final, on ne s'en sort pas. Et on en revient à ce que je dis très régulièrement, la France est le pays occidental, enfin le pays en Europe, on va s'en tenir à l'Europe, qui est le plus violent, où il y a le plus de problèmes de sécurité. On sait très bien dans quel quartier ça se passe, mais il y a plein de choses qu'on veut pas dire et des problèmes qu'on ne veut pas résoudre, ou en tout cas on a visiblement pas les moyens de les résoudre, parce que soit on a une justice trop laxiste, on ne veut pas condamner les gens, on pense d'abord à leur réinsertion, on pense d'abord aux problèmes. Enfin bon, bref, moi j'ai l'impression qu'on tourne en rond sur ces questions et que les semaines passent et on a toujours une France qui est toujours plus dans l'insécurité.
Thierry Moreau, c'est un problème de délinquance, c'est un problème de justice là.
Les deux.
Les deux.
Je pense qu'évidemment c'est un problème de délinquance parce qu'on voit que les incivilités contre tous les corps de métier. Quand un parent vient gifler un professeur parce qu'il a mis une mauvaise note à son élève, quand un pompier caillassé quand il intervient, ou quand ça m'est arrivé d'aller dans des urgences. La première personne qu'on voit en arrivant aux urgences, c'est pas un infirmier, c'est un vigile. Pour protéger justement les gens qui sont à l'intérieur d'éventuelles agressions. Ben, c'est absolument inadmissible. Et là où je rejoins Daniel, même si je suis pas d'accord sur toute son analyse, c'est que, parce qu'on dit les choses maintenant très clairement, le fait est que le fait qu'il ne soit pas condamné, enfin, lui dit, il a tout fait bien. Et puis les gens viennent le narguer comme tu racontais. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Si on prend pas le problème à bras le corps, on va se retrouver avec une aggravation d'endroits j'allais dire de non-droit, mais c'est une très mauvaise formule, où il y a non seulement pas d'autorité, mais pas de médecin, et pas d'hôpitaux, et pas de tout. Enfin voilà, donc c'est un cercle vicieux qui est inadmissible, absolument inadmissible, absolument inadmissible.
Apolline Matin, ce matin, aurait-il fallu sauver l'entreprise Camailleux ? Hier, le tribunal de commerce de Lille a annoncé la liquidation pure et simple de l'entreprise de mode pour femmes. Tous les magasins vont fermer dès ce samedi et 2600 salariés vont donc se retrouver au chômage. Colère et émotion d'une salariée, hier, à l'annonce du verdict.
Vous trouvez ça normal ? Toute une vie à la poubelle, toute une vie, 2700 personnes à la rue, on fait comment maintenant ? C'est lui qui va nous payer les loyers ? C'est lui qui va nourrir les familles. Trahison, mensonge, manipulation. Donc c'est plein pour eux, rien pour nous. C'est normal. Elle est où la logique? Tous les projets qu'on leur a donnés, qui auraient pu rapporter de l'argent, ils n'ont rien mis en place. C'était que du vent. Que du vent. On va attendre la suite maintenant. On va aller bosser les 3 jours qu'on nous a ordonné de bosser. C'est tout ce qui nous reste.
Voilà, 2600 salariés qui vont se retrouver au chômage dès samedi. Fini pour la marque Camailleux. Et c'était une grosse marque. Voilà, c'est une marque en tout cas qui a eu qui a eu du succès. Alors un peu moins hein, ces dernières années, évidemment, Emmanuel. Mais c'est vrai qu'on comprend la détresse de ces salariés. On se dit, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire, quoi ?
Alors, c'est une marque affective, hein. Oui, Camailleux. Bah oui. Je crois qu'on y est toutes passées, qu'on a toutes du Camailleux dans nos placards. Et moi, la première. Donc moi, ça me fait effectivement quelque chose. Je comprends la détresse de ces 2700 salariés. Après, le problème, c'est qu'on est dans une économie. Bercy a essayé d'accompagner la reprise de Camailleux. Par contre, le repreneur demandait tellement d'argent. Enfin, c'était mettre l'entreprise sous perfusion en permanence. Et Bercy a considéré qu'ils n'arriveraient jamais à sauver l'entreprise. Je ne connais pas le dossier plus que ça, mais c'est deux logiques qui s'affrontent, qui s'opposent. Évidemment que le cœur va vers les salariés de Camailleux. Et visiblement, les cerveaux ont décidé que ça n'était pas possible de sauver l'entreprise.
Et c'est vrai que quand vous baladez aujourd'hui dans les rues de villes hyper commerçants, il n'y a plus personne dans les magasins de vêtements. Bah, c'est assez
hallucinant. C'est archi vide, hein.
Après, les prix ont énormément augmenté. C'est vrai qu'avec le Covid, on a pris des habitudes différentes. Et puis, aussi, un truc, on est dans une société où on nous dit en permanence qu'en fait, on surconsomme, etc. Et les gens ont pris l'habitude de moins consommer. Et
ou autrement. Ou autrement. En commandant, exactement. En faisant
du Vinted. Voilà, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'entreprises comme Camailleux qui vont se retrouver en énorme difficulté. Et ça, on ne le dit pas assez aussi.
Ils ne sont pas les seuls.
Excusez-moi, mais en ce qui concerne Camailleux, quand on regarde un petit peu l'histoire de Camailleux, depuis 2008, il y a un problème. Au moment où sont arrivées les marques comme H&M, Zara, ils ont décidé une stratégie de gigantisme et de multiplication, c'est-à-dire de mettre des magasins partout, de louer des locaux partout. Et donc, ils se sont retrouvés assez énormes, d'où les 2600. Et le désespoir de cette femme est terrible. Évidemment, on peut être que sensible à ça. Le seul problème, c'est que c'est des erreurs de stratégie. Le gouvernement a déjà donné 20 millions d'euros pour les aider. Le Covid les a achevés là-dessus. Je pense que c'est une erreur stratégique et que c'est triste, mais il y a des entreprises comme ça qui, étant mal gérées depuis 2008.
Oui.
Hein,
mais tu vas avoir plein d'entreprises de fringues qui vont mettre la clé sous la porte.
Après, peut-être que la marque ne disparaîtra, parce que je vous rappelle que quand il y a liquidation, on vend les locaux, on vend la marque, on vend, et il y a des gens qui pourront peut-être reprendre un certain nombre de salariés. Peut-être que la marque va revivre sous une autre forme. Donc, c'est pas forcément la fin de la marque Camailleux pour eux.
Ouais, enfin, aujourd'hui, créer une marque de fringues ou tenir une boutique de fringues, c'est pas, tu sens pas que c'est un métier d'avenir.
C'est clair.
C'est quand même compliqué.
Après, difficile de dire qui est responsable. On est juste face à la détresse des employés. Est-ce que l'entreprise s'est renouvelée? Tu disais beaucoup de femmes se sont habillées là-bas. Est-ce qu'au fil du temps, c'est une entreprise qui s'est modernisée, qui a été laissée à l'abandon? Est-ce qu'il y a eu un peu de création? Parce que les fringues, par définition, on sait bien qu'il faut
que ça suive. Est-ce qu'ils n'ont pas eu les yeux plus gros que le ventre aussi, comme raconté?
Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut que ça suive une forme de mode? Il faut se réactualiser. Des marques qui ont disparu dans l'univers de la mode, du prêt-à-porter, il y en a plein.
Donc, dans l'univers du retail en permanence.
Voilà, ils ont misé sur les magasins physiques, alors que c'est surtout la dématérialisation.
Donc, on parle quoi qu'il en soit, de stratégie de développement, de stratégie de développement du groupe. En l'occurrence, ratée.
De stratégie d'omnicanalité, comme on dit, ratée.
Ouais. Voilà. Enfin, c'est triste pour cette dame et les 2600 salariés qui ont dit samedi, c'est fini. Et samedi, dans 3 jours.
C'est terrible.
C'est un drame absolu. Apolline Matin, préférez-vous une prime ou une augmentation de salaire? Question difficile. Avec l'inflation, certaines entreprises font le choix de verser une prime à leurs salariés plutôt que d'augmenter leur salaire. Un coup de pouce préféré par certains salariés, comme l'a expliqué ce matin Marie-Odile, elle est chef d'entreprise à Arras.
Moi, j'ai proposé à plusieurs reprises cette année une augmentation à la personne qui s'occupe de mon secrétariat, Marion, et elle m'a dit ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'elle me dit toucher plus pour redonner plus par la suite, c'est pas intéressant.
C'est-à-dire que elle avait peur, quoi, de passer dans la tranche supérieure des impôts?
Oui, Voilà. Donc elle me dit l'augmentation, et je dis c'est effectivement, ça peut arriver que l'augmentation soit intéressante sur le coup, mais qu'effectivement le fait de changer de tranche, elle paye plus d'impôts qu'elle n'aurait eu d'augmentation.
Voilà, bon, et en même temps, ça marche pas non plus pour sa retraite, donc c'est un peu embêtant. Mais vous comprenez pas, vous, Thierry?
Mais non, on marche sur la tête.
Ah bon.
Il faudrait, une bonne fois pour toutes, qu'il y ait une pédagogie des impôts. Quand vous changez de tranche, vous ne payez des impôts supplémentaires que sur le delta, c'est-à-dire la différence, ce que vous gagnez en plus. Vous ne changez pas de tranche, vous n'allez pas payer un pourcentage plus élevé d'impôts sur tout ce que vous gagnez. Vous ne paierez plus d'impôts que sur ce sur quoi vous gagnez
en plus.
Mais tu
le vois, parce qu'en fait,
donc
les impôts...
Donc ça reste une augmentation.
En fait, on te
dit... terminer. En revanche, effectivement, là où c'est problématique, c'est les effets seuil. On en parle souvent ici, où passer un certain salaire, on perd toutes les aides. Ça, je suis d'accord, et moi, je suis pour une dégressivité des aides. Mais en revanche, dire « je ne veux pas être augmenté parce que ça me fait sauter de tranche d'impôt », c'est ridicule, c'est faux, et c'est pas rationnel.
Moi, je vais juste expliquer un truc. Le problème du rattrapage, en fait, de la tranche supplémentaire, c'est que on t'a dit l'impôt à la source, tous tes impôts, ils vont, voilà, tout ce que tu gagneras à la fin du mois, il n'y a pas de souci, il n'y a plus d'impôt, en fait. Tu le vois plus, c'est-à-dire que tu as ta feuille de salaire, et voilà. Quand t'as un rattrapage, en fait, tu t'y attends pas. Et fin septembre, tu reçois une lettre des impôts avec un rattrapage. Et là, tu te dis, je comprends pas. L'impôt à la source, il devait pas me prélever tout ce qu'il me devait. Et c'est ça. Et ça, c'est assez incompréhensible pour moi.
Je trouve ça moins injuste que de payer des impôts sur ce qu'on gagnait l'année dernière. Excusez-moi. Pour avoir vécu ça, excusez-moi, Estelle, pour avoir vécu ça où une année, j'ai gagné beaucoup moins que l'année précédente, je peux vous dire que j'ai payé des impôts très importants, alors que j'avais plus de quoi les payer.
Je suis d'accord.
Donc, excusez-moi.
Quand tu reçois un rattrapage, ça te fait bizarre quand même.
C'est pas encore complètement.
Tout dépensé, hein, Thierry.
Non, mais c'est peut-être pas complètement juste. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas complètement juste, mais c'est au moins plus juste que le système précédent. Et encore une fois, vous ne paierez des impôts supplémentaires que sur la différence de salaire supplémentaire, pas sur tout ce que vous gagnez. On ne saute pas de tranche.
Et ne choisissez pas la prime, parce que la prime, on peut vous la retirer, alors qu'une augmentation de salaire, on peut pas reculer. Donc vaut mieux prendre ce qui est acquis. Et en plus, oui, c'est vrai qu'on cotise pas aussi.
Ouais, mais sauf qu'il y a plein de patrons qui peuvent pas te donner une augmentation.
C'était pas ça la question. La question, c'était est-ce qu'on préfère la prime ou l'augmentation de salaire? Choisissez l'augmentation de salaire.
Daniel?
A priori, sur cette question, c'est difficile de donner tort à Emmanuel. Oui, elle est inscrite dans le contrat.
Il essaye pourtant.
L'augmentation. Mais... Non. L'augmentation. Mais après, si c'est prime ou rien, je pense que tout le monde prend la prime.
Je suis évidemment avec toi. Les GG ce matin. Allez-vous débrancher votre sèche-linge? Hier, le député Renaissance Gilles Legendre a déclaré avoir arrêté de se servir de son sèche-linge au profit d'un étendoir ou d'un tankerville. Moi, je dis tankerville. Ceci, bien entendu, pour faire des économies d'énergie. Un conseil qui sidère le chef d'entreprise des GG, Mehdi Ghezard.
C'est un député de la République qui me parle de son étendoir, là où il va mettre ses caleçons et ses chaussettes. Enfin, waouh, c'est quelque chose, c'est du high level là. Là, on arrive vraiment dans c'est de la folie pure. Le type me raconte en direct à la télévision avec sur une chaîne d'information que lui et sa femme ont fait Koh-Lanta. Ils ont fait un conseil, tu vois, un conseil sur Koh-Lanta, et ils lui ont dit aujourd'hui, ça y est, c'est ton dernier jour la machine à sèche-linge. On va arrêter le sèche-linge. La décision est irrévocable. On va mettre l'étendoir.
C'est toi le maillon faible.
Mais arrêtons de prendre les gens pour des cons, quoi. Non, mais c'est
un député. Qu'est-ce qu'il va en faire de son sèche-linge?
Il va le mettre sur le bon coin, tu vois. Non, mais arrêtons.
À vendre.
Mais Daniel, ça parle
de ne te tourne pas vers moi, je n'ai pas de sèche-linge. Ça abîme les vêtements, j'en ai pas.
Bien sûr.
Ça consomme trop. Je n'utilise pas les sèche-linges, je n'utilise pas de micro-ondes parce que c'est mauvais pour la santé. Donc moi, je suis très écolo dans.
Non, mais tu trouves pas ça ridicule de la part d'un député
de certains produits
d'annoncer qu'il a décidé de mettre fin à son sèche-linge pour étendre son linge sur un étendoir? Non, mais franchement.
C'est la même chose que tout à l'heure. Donc je vais laisser Thierry s'énerver à nouveau sur le col roulé de Bruno Le Maire, c'est pareil. Bon, ok, le député, faut pas qu'il nous...
Mais là, c'est ridicule.
On n'arrête pas de...
Mais tout est ridicule, en fait. Le mec, ils peuvent plus rien dire que de toute façon, tout est ridicule.
Mais est-ce qu'on leur demande de pas servir dans leur sèche-linge?
Excusez-moi, on n'arrête pas de demander des hommes politiques qui nous ressemblent. On a un type qui vient nous dire,
moi, je vais vous donner mon
sèche-linge. Il en fait pas non plus un étendard. Il répond juste à une question.
Si le député disait, moi, j'ai la femme de ménage qui me sèche mon linge et tout, on dirait, oh, quoi, il a une femme de ménage? Oh mon Dieu, quelle horreur et tout ça. Il a une femme de ménage. Et pourquoi pas des domestiques aussi qui lui vident sa machine à laver et tout. Enfin, quoi qu'ils disent, de toute façon, on tombe dessus.
Je crois qu'il étend son linge en plus.
Je m'en fous qu'il étende son linge ou pas, moi.
En ce qui concerne
Moi, je m'en fous qu'il ait un étendoir.
Mais ce qu'on a à faire.
Excusez-moi, Estelle, on veut que les hommes politiques nous ressemblent, ils nous ressemblent. La deuxième chose, c'est que.
Mais moi, je veux même pas qu'ils ressemblent, moi.
On n'arrête pas de dire que la lutte contre le réchauffement climatique, ce sera des mesures fortes sur les vrais pollueurs et des symboles. Là, on a des symboles. Moi, ça ne me gêne pas. Ah, ok, que ça soit instrumentalisé comme c'est de la com, c'est tout un peu.
Il va poster une photo de lui en train de
dire. Après, on admire les démocraties du Nord parce qu'on dit, tiens, la députée ou machin, ils prennent leur petite bagnole, elle prend sa Fiat Panda pour aller au Parlement, machin.
De Castex dans un métro.
Voilà, on dit que c'est formidable. On dit.
Attends, la différence avec Castex, c'est qu'il prend le métro, mais il s'est pas fait un selfie. L'autre député, qu'est-ce qu'il dit ? Il annonce, mais comme s'il avait trouvé un vaccin contre la rage. Plus, hein. Je veux dire qu'il a changé son sèche-linge pour un étendoir.
C'est un procès d'intention, ça, Estelle. Vraiment, moi, je l'ai vu cette interview. Non, c'est un procès d'intention. J'ai vu. Il l'a dit très simplement. Il a juste donné un exemple. Ils sont sans doute plus que deux à la maison. Il a dit, c'est pas grave. Nous, on est visiblement. Il étend son linge, c'est pas que sa femme. Et voilà, il dit voilà, on étendra notre linge. Qu'est-ce que c'est? C'est pas grave. Moi, c'est vrai que moi, avec quatre enfants, étendre le linge, c'est quand même pas une partie de plaisir. Et je fais plusieurs lessives par semaine, donc je vais pas le faire.
Les domestiques s'en occupent pas.
Non, mais
c'est vraiment une mauvaise française. Mauvaise citoyenne.
Pour les enfants, j'imagine. Donc voilà, il y a des choses que je vais pas débrancher tout de suite. J'attendrai que les enfants soient partis faire leurs études. Mais moi, je trouve ça bien qu'il l'ait dit. Il l'a dit en plus, c'était vraiment pas en train de fanfaronner. Hein. Regardez la vidéo, il n'était pas en train de fanfaronner. Voilà, il donne un exemple, basta, quoi.
Non, et aujourd'hui, tout est tourné en dérision.
Exactement.
Mais est-ce que t'es obligé? Mais attends, excuse-moi.
Mais c'est un procès d'intention.
Est-ce qu'on demande à nos députés, pardon, de parler de leur sèche-linge? Mais moi, excusez-moi,
mais
je m'en
fous.
Est-ce qu'on préfère pas qu'ils roulent en smart plutôt que de rouler avec des grosses voitures, des motos devant et tout ça? En fait, c'est ça, peut-être, la simplicité. C'est de pas vivre dans le ministère, mais de vivre dans un appartement comme tout le monde. C'est peut-être ça, la simplicité.
Mais ça changera quoi qu'il habite dans un appart plutôt qu'au ministère?
Mais non, mais
il faut les utiliser, les bâtiments de la République, de toute façon.
Mais oui, mais logeons des gens, alors.
On y arrivera,
par exemple.
Je me fous de savoir s'il a mangé de la ratatouille et du poisson pané, en fait. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce qui m'intéresse chez un député. Et là, on s'éloigne de tout.
Excusez-moi, on a viré un président de l'Assemblée nationale parce qu'il mangeait des homards. Donc, on se soucie bien quelquefois de ce que mange.
Il est cohérent.
Ou un autre parce qu'il est venu à la télé en polo Lacoste.
Exactement.
Il est cohérent.
C'est vrai. Il était en polo Lacoste.
On s'en fout de son Lacoste.
Non, c'était ça l'idée.
Il est cohérent. Il aligne ce qu'il dit avec ce qu'il fait. C'est trois fois rien. C'est juste un sèche-linge. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau.
Absolument.
Bon, bah écoutez.
Tu es toute seule, Estelle, sur ce dossier, sache-le.
On est deux.
Sache-le, tu es toute seule.
Eh bien, nous poserons la question à Marlène Schiappa. Est-ce qu'elle a encore un sèche-linge? Et puis, on verra si elle nous répondra. Et puis, on verra si c'est intéressant.
Je suis sûr qu'elle nous parlera de sa vie de manière très simple et très normale.
Comme elle fait souvent, d'ailleurs.
Oui, mais on adore ça chez elle, mais je suis désolée. Enfin, aujourd'hui, on ne doit pas ériger ça en modèle parce que quelqu'un a mis un étendoir plutôt qu'un sèche-linge.
Personne ne vous dit l'ériger en modèle. Il a simplement répondu à une question.
Moi, tu veux que les députés soient toujours en mode monarchie.
Moi, je veux qu'ils soient à l'Assemblée.
Ils sont dans le château, mais ils y sont à l'Assemblée.
Ils sont dans leur circonscription aussi, c'est pas qu'à l'Assemblée, sinon ça n'a aucun intérêt.
Parce que ça leur prendra trop de temps.